Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du Pédalo. Programme ce soir, une interview de Monsieur Dominique Vermersch, le doyen de l'Université catholique de l'Ouest, quitte ses fonctions à la rentrée prochaine. L'occasion de revenir avec lui sur ses 10 ans de mandat et sur l'article publié il y a quelques semaines dans le journal indépendant local La Topette. En deuxième partie d'émission, la chronique de Chloé et un reportage en partenariat avec La Frappe, un reportage pensée locale. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo, c'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
En septembre 2022, donc à la rentrée prochaine, l'Université catholique de l'Ouest, qu'on va de temps en temps appelé UCO ou UCO dans cette interview, change de recteur. C'est monsieur Laurent Péridi qui remplacera Dominique Vermersch. Dominique Vermersch qui était à ce poste depuis 2012. Et Dominique Vermersch qui est avec nous dans les studios ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
10 ans en tant que recteur de l'UCO, 2 mandats. Je suppose un peu d'émotion quand même.
Oui, un peu d'émotion. Et puis, sachant que l'aventure a été un petit peu sportive pendant ces 10 années, donc 2 mandats de recteur. Donc, c'est un peu la coutume, hein, c'est-à-dire d'effectuer 2 mandats. Donc, pour la Cato d'Angers, enfin, l'UCO, hein, comme on l'avait appelé. L'UCO, donc, comme les 5 autres Cato en France, en fait, où en général, donc, les recteurs effectuent 2 mandats de 10 ans. Voilà.
Sportif.
Oui, sportif, parce que pour moi, c'était un peu un nouveau métier. J'étais au départ, je suis toujours d'ailleurs prof à l'Institut Agro, domaine de l'économie, de l'éthique, donc voilà, changer de métier, parce que bon, il s'agit effectivement de conduire une institution universitaire, catholique. Moi, je suis issu de l'université publique, oui, tout simplement, et d'ailleurs, je reviendrai le 1er septembre à l'Institut Agro, mais de mon point de vue, en tous les cas, plutôt une belle aventure, quoi, en fait.
Oui, vous savez, à la rentrée prochaine, vous allez quand même rester professeur au sein de l'Institut d'agrologie.
D'agronomie, voilà, c'est d'agronomie. Ça, donc l'Institut Agro, donc, qui est basé à Rennes, à Angers et à Montpellier. Donc je serai basé administrativement à Angers, ce qui me donnera aussi éventuellement la possibilité de garder un tout petit pied à la Cato, à l'UCO, donc sur tel ou tel aspect auquel consentira le nouveau recteur, parce que c'est lui le nouveau patron.
Donc le nouveau recteur qui était le vice-recteur.
Exactement, qui était le vice-recteur, donc Laurent était vice-recteur. Donc il m'a accompagné pendant 10 ans, et je peux même dire qu'il m'a mis le pied à l'étrier, puisque je l'ai reçu comme étant déjà vice-recteur. Donc c'est d'autant plus que Laurent donc avait été appelé au vice-rectorat par mon prédécesseur, donc qui était le père Bédouel, voilà, qui malheureusement n'a pas pu terminer son mandat puisqu'il est tombé malade et décédé en 2012 en fait, voilà. Donc Laurent connaît très très bien la maison et puis un ancien étudiant de la Cato en plus.
Si vous deviez nous dire en quelques mots ce qu'a représenté pour vous la Cato pendant ces 10 ans, qu'est-ce que ça a été pour vous la Cato?
La Cato, pour moi, ça a été d'abord, je dirais tout simplement, une communauté d'appartenance, voilà, qui rassemble les profs, les étudiants, évidemment, puisque nous sommes là, les profs, le personnel administratif, au service de nos étudiants. Donc, d'une part, une communauté d'appartenance, d'autre part, un lieu, propice pour conduire une aventure. Et durant ces 10 ans, l'aventure, ça a été quoi? Ça a été donc notamment la réforme facultaire, hein, l'université, l'UCO s'est réapproprié le mot faculté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UCO, ce n'est plus une seule faculté, la faculté de théologie, mais c'est 6 facultés. Voilà.
Vous parlez de faculté, en plus, c'est intéressant, puisqu'il y a eu quand même des énormes débats les années passées sur est-ce que l'Université catholique de l'Ouest est vraiment une université, est-ce que c'est une faculté. Finalement, il y a aussi une difficulté de définir ce que c'est finalement
l'UCO. C'est une bonne question. Qu'est-ce que l'UCO? Je dirais que l'UCO, c'est vraiment un corps vivant qu'on ne s'approprie pas. Alors, c'est le mot université souvent qui peut faire débat, puisque vous savez peut-être que ce mot est est protégé, c'est-à-dire que voilà, il bénéficie d'un monopole public en fait. Voilà. Mais en gros, aujourd'hui, il suffit de regarder à Angers les panneaux indicateurs Université catholique. Voilà, le fait que oui. De cette manière, voilà, le mot faculté, pas du tout. Le mot faculté est un mot qu'on peut utiliser, qu'on peut s'approprier, et qu'il faut prendre dans l'acception large du terme, hein, se donner des facultés, voilà, des facultés diverses et variées à partir de disciplines, en fait, de disciplines, voilà.
En tout cas, à noter quand même que les diplômes délivrés par l'Université catholique de l'Ouest ne sont pas des diplômes de l'Université catholique de l'Ouest, mais des diplômes de l'Université d'Angers.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont des diplômes, donc l'ACATO, l'UCO, prépare à des diplômes nationaux, d'accord, qui sont délivrés. Alors, qui sont délivrés soit par l'Université d'Angers, soit par l'Université de Nantes, soit par l'Université de Rennes 2. Nous avons 7 ou 8 universités, d'accord ? Voilà, donc ce sont des diplômes nationaux. Mais, donc c'est le cas, donc, on pourrait dire 90% des cas, c'est-à-dire sur la totalité des diplômes auxquels nous préparons. Mais cela étant, nous avons des diplômes propres, nous avons des diplômes de l'UCO, propres de l'UCO, commencés par les diplômes de théologie, mais pas que. Hein, nous avons des diplômes d'université, qui sont des diplômes propres de l'UCO.
Et est-ce que ces diplômes sont reconnus par l'État ?
Et tout à fait, ils sont reconnus par l'État d'une manière un peu différente.
Hein, c'est ça, parce concrètement. Que vous êtes université hors contrat.
Non, nous avons un contrat. C'est-à-dire d'accord. que nous sommes liés par un contrat avec le ministère, nous sommes évalués régulièrement, d'une certaine manière. La seule chose pour l'instant, c'est d'ailleurs, c'est que nous ne pouvons pas délivrer des grades des diplômes nationaux. Voilà. Et ça fait toujours débat depuis 150 ans, hein, donc voilà, au moins.
Il y avait un volet international qui a été très très important pendant vos 10 années de mandat, vos deux mandats. Hein. Encore récemment, vous étiez au Vietnam, vous avez de fortes relations avec l'Afrique. C'était important ce maillage international de l'Université catholique de l'Ouest.
Alors pour moi, c'est vraiment important, ça doit rentrer dans la génétique de l'UCO en fait, hein. C'est-à-dire cette ouverture internationale qui peut s'exprimer très diversement, d'une part par l'accueil d'étudiants étrangers, nous en avons près de 20% sur nos 8 campus, hein, vous voyez, donc c'est quand même considérable. Et puis effectivement, dès 2014, en fait, nous avons nous avons initié donc un recrutement international étudiant, donc c'est-à-dire nous allons chercher nos étudiants notamment en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et puis aussi l'Asie du Sud-Est, et vous avez cité effectivement le cas du Vietnam, et aujourd'hui ça se prolonge par des collaborations je dirais diplômantes, c'est-à-dire en fait nous portons ensemble l'UCO et l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest et l'Université de technologie de transport de Hanoï, etc. Nous portons ensemble des diplômes, et je crois que ça, c'est vraiment important.
À travers des chaires, ce que vous appelez des chaires.
Voilà, notamment, au travers des chaires. Alors, il y a notamment deux chaires importantes que nous avons démarrées il y a à peu près 3 ans. Donc, la chaire dite Vietnam, voilà, donc, qui dit tout, hein, voilà, et qui exprime notamment le lien d'amitié extrêmement profond, par-delà l'histoire qui a été tumultueuse, entre la France et le Vietnam. Le Vietnam qui souhaite aujourd'hui, c'est une volonté même politique du gouvernement vietnamien, de remettre le français, la langue française, sur les écrans radars. Et puis l'Afrique. Il faut savoir peut-être, alors pour la petite histoire, que l'Afrique, c'est notamment avec l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, qui a une même structure analogue à celle de l'UCO, qui est en multicampus sur différents pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, d'accord ? La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, etc. Et donc cette structure analogue en fait a été au départ fondée, la première pierre de fondation de cette Université catholique d'Afrique de l'Ouest en fait a été posée par celui qui allait devenir ensuite l'évêque d'Angers au début des années 60, c'est Monseigneur Orchamp qui avait contribué à fonder donc l'Institut des sciences religieuses d'Abidjan qui allait devenir ensuite l'UCAO. Donc vous voyez ce lien finalement historique entre Angers et la Cato, l'UCO et puis la Côte d'Ivoire notamment.
Donc maillage international, mais aussi évidemment maillage local important. Vous avez 8 campus en tout, dont 6 dans le Grand Ouest, Angers, Laval, Nantes, Vannes, Guingamp et Niort, en plus de ceux à La Réunion et Papeete. C'était important aussi de s'implanter un local, et c'est quelque chose qui tient à cœur.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on va être souvent, et je reprendrai le mot souvent dit par le futur, le nouveau recteur, Laurent, la Cato, l'UCO, c'est la rencontre d'une université avec un territoire. Et donc, en fait, on est appelé à épouser ce territoire, d'une certaine manière, et voilà, à s'en occuper, à proposer des formations dans ces territoires. Et il suffit de voir, vous êtes ici à Angers, il suffit d'aller à Vannes, et vous allez voir que le campus Vannetais est coloré d'une certaine manière, ne serait-ce que par les formations qui sont données. en rapport avec le territoire. C'est pareil pour Union de Bretagne Nord, et c'est évidemment le cas pour UCO Pacifique. Voilà, hein, vous aurez peut-être d'informations au surf, là-bas, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, entre ces campus, il y a vraiment aussi une synergie, puisque nous, très concrètement, nous pouvons développer des formations, par exemple, notamment c'est le cas à Vannes, hein, autour des formations autour du tourisme, par exemple, et qui pourront être, ces formations pourront être délocalisées à Papeete, à La Réunion, et notamment. Donc cette synergie entre campus est aussi très importante pour la CATO.
Vous avez annoncé aussi, pour continuer dans ce mariage local, à l'horizon 2023, l'ouverture d'un nouveau campus au Mans. Alors, il y a eu pas mal de polémiques autour de ce projet, la méfiance des syndicats manceaux qui préféreraient, et alors je les cite, favoriser l'école de la République, et ils avaient par ailleurs réaffirmé leur attachement au service public, à l'éducation laïque et gratuite. Bon, malgré toutes ces réticences, où est-ce qu'on en est de ce projet? Est-ce qu'on aura vraiment un campus au Mans en 2023?
Alors, en 2023, on ne l'aura pas. En 2023, en tout cas, on ne l'aura pas. Pourquoi? Alors, pour la raison suivante, c'est qu'on n'a pas encore, tranché sur l'équation immobilière, c'est-à-dire le lieu d'implantation. Il nous a été proposé plusieurs lieux d'implantation, mais qui, pour l'instant, ne satisfont pas à un développement d'un campus qui, rapidement, devrait atteindre au moins 500 étudiants, en fait, au Mans, hein, puisque, vous voyez, nous avons ouvert à Niort il y a 2 ans. À Niort, nous sommes déjà près de 300 étudiants. Donc, vous voyez, Niort comparé au Mans, voilà, d'une part. Après, effectivement, il y a eu des polémiques, mais ça, c'est un grand classique, pourrait-on dire. Je crois que l'université catholique est aussi au service de la République, d'une certaine manière. Je peux vous donner un chiffre, simplement, pour essayer d'expliquer les choses. L'UCO, c'est aujourd'hui 35% d'étudiants boursiers. Voilà. Pour la moyenne nationale, c'est à peu près 40%, d'une part. Donc on est quand même. C'est-à-dire que l'UCO, finalement, quand les étudiants vont à l'UCO, quelque part, ça représente des frais, etc. Frais de scolarité qui sont totalement indexés sur le revenu des familles, hein, totalement indexés. Et puis d'autre part, vous voyez qu'un étudiant qui est inscrit à l'université publique, le coût que ça représente, finalement, c'est pas cher, c'est gratuit, quasiment. Hein, droit d'inscription, c'est 170 euros. Mais de fait, ça,
en première année de licence.
En première année, en deuxième année, enfin, toute licence confondue, le coût, c'est à peu près 11 000 euros. D'accord, 11 000 euros, c'est un chiffre qui est connu. Et donc, 11 000 euros, que reçoit l'université catholique quand elle forme ses étudiants, à votre avis? Elle reçoit quoi? Elle reçoit 600 euros. 600 euros. Et donc le complément est fourni évidemment par les frais de scolarité. Mais ces frais de scolarité aujourd'hui sont entre 2 900 et à peu près 5 500, 6 000 euros. D'accord? Donc vous n'avez pas encore le compte. Si je compte mes 600 euros par étudiant de subvention, les 4 500, ça ne fait pas 11 000 euros. Pourtant, avec ça, nous arrivons à préparer des étudiants à la diplomation. Puis la préparation est plutôt pas mauvaise, puisque nous avons des taux de réussite en licence qui sont autour de 72% par rapport à 28% au niveau national.
Ça, vous êtes quand même reconnu pour bien accompagner les étudiants, quasiment presque les materner, les accompagner. Il y a un environnement sain, voilà. et que vous essayez d'être le plus accompagnant possible.
Voilà, et puis avec ce souci que finalement, ces étudiants, quand moi je les accueille chaque année, les premières années, je les accueille, je leur dis, écoutez, cette UCO, cette CATO, c'est la vôtre. Et donc on a vraiment souci que finalement, cette institution soit celle des étudiants, en fait, qui se l'approprient d'une certaine manière le temps de leurs études, en fait, globalement.
Comment se passe le travail de transmission avec monsieur Laurent Péridi, qui sera dans votre bureau, dans votre fauteuil, donc à la rentrée prochaine?
Je pense que faudra peut-être poser la question, hein, quand vous le... Voilà. Mais je pense que ça se passe plutôt bien, parce que Laurent était vraiment mon collaborateur direct pendant presque 10 ans, donc il connaît très très bien la maison. Aujourd'hui, maintenant, hein, donc il a été nommé le 14 mai dernier, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le recteur sortant gère un peu les affaires courantes, et donc toutes les décisions, les orientations sont prises, ensemble. Il s'est constitué une nouvelle équipe rectorale, donc il va l'accompagner. Il y a 3 vice-recteurs, donc 2 nouveaux vice-recteurs, une qui sera restera en place, donc Catherine Mounerac, et puis un secrétaire général, un directeur de campus. Donc le passage de relais se passe, je pense, vraiment très paisiblement, quoi, en fait.
Si vous deviez me citer un projet mené à bien, dont vous êtes le plus fier, un projet pendant ces 10 ans de rectorat?
Alors,
un projet.
Je ne peux pas me l'approprier, hein, mais je vous en citerai un quand même, parce que ça a été, pour moi, ma joie la plus profonde, c'est d'avoir pu, accompagner la renaissance de la faculté de théologie. Voilà, une petite faculté, des étudiants. Et aujourd'hui, qui a un corps professoral de nouveau complet, cette faculté qui propose des cours à l'ensemble des autres facultés, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle notamment des cours transversaux, en fait. Et voilà, donc ça, pour moi, donc c'est petit, mais ça a été pour moi une belle joie de pouvoir d'accompagner cette renaissance de la faculté de théologie.
Hier, on a pu lire une interview de Laurent Péridi dans Ouest France qui réagissait à l'article publié dans le journal local La Topette. Est-ce que déjà vous avez lu cet article ?
Ah ben évidemment que j'ai lu cet article.
Et est-ce que vous retrouvez dans cet article l'UCO que vous avez construit pendant ces 10 ans ?
Non, je ne la retrouve pas, donc parce que d'abord les propos sont, la plupart des propos sont, oui, sont faux, donc quasiment diffamants, quoi, mais c'est pas très grave de cette manière, avec notamment le fait que voilà, donc l'argument principal, ce serait je crois que c'est l'emprise d'une certaine communauté de l'Emmanuel.
Voilà, la communauté
serait,
de l'Emmanuel,
voilà,
dont vous avez été
dont j'ai été responsable pendant des années, voilà, et que donc voilà. Alors, vous savez, la vérité nous rend libres, hein, c'est-à-dire qu'il faut objectiver. Le travail d'université, c'est quoi ? C'est d'objectiver. Voilà, c'est d'objectiver. Donc, point par point, les choses. Donc, sur ces différents points qui ont été évoqués, on peut dire que effectivement, il y a quelques membres de l'Emmanuel qui ont été recrutés à la loyale, hein, c'est-à-dire dans des commissions de recrutement objectivées, voilà. Et comme l'a rappelé Laurent très bien dans cette interview, il dit ce qui prime d'abord, c'est les compétences. Point barre. Voilà. Alors, donc d'une part, ensuite, est-ce que je retrouve l'université ? Non. Quand on annonce que dans certains cas, les étudiants en gros achètent leur diplôme, je veux dire, c'est totalement diffamant pour l'institution et pour la crédibilité de l'institution. Donc sortir de ce type de propos est extrêmement grave et diffamant d'abord à l'encontre de l'institution UCO.
Et donc, ceci étant dit, les étudiants qui achèteraient leur diplôme, ce sont des paroles rapportées, ce sont pas des paroles de La Topette.
Bien sûr, ce sont des paroles rapportées de quelques-uns, voilà, qu'on peut connaître, mais voilà, ces personnes, je leur dis, écoutez, vous portez atteinte profondément à l'institution de l'UCO, à la crédibilité de l'UCO, qu'on fait de cette manière. Donc voilà, ça n'empêche que d'une certaine manière, l'UCO continue son aventure et on est toujours prêt à objecter point par point. Voilà, c'est tout ce qui a été dit par ce petit journal. Voilà.
Alors justement, ce petit journal, donc c'est un média indépendant angevin. Hein. Mm-hmm. Il s'interrogeait, donc vous le rappeliez, sur la possible mainmise d'une communauté religieuse l'Emmanuel au sein de l'UCO. Laurent Péridi, dans cette interview à Ouest France, indique qu'il n'y a pas plus de prosélytisme de cette communauté que d'une autre au sein de l'UCO. Mm-hmm. Est-ce que l'Université catholique de l'Ouest fait du prosélytisme de manière générale alors ?
Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, l'Université catholique de l'Ouest, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une université, d'abord. Donc, premier mot à honorer, c'est l'université. D'accord. Donc, ce qui fait que les étudiants que nous accueillons, on ne demande pas à l'entrée leur certificat de baptême. Vous voyez, tout simplement, enfin, c'est voilà. Deuxième mot, c'est quoi ? C'est catholique. Qu'est-ce que ça veut dire catholique ? Enfin, pour faire bref, catholique, ça veut dire, en gros, c'est d'abord, c'est l'universalité. D'accord ? C'est l'universalité. Et c'est et donc très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette université catholique va, effectivement, au travers de l'aumônerie, notamment, au travers de la manière dont elle exprime ses valeurs. Quelles sont les valeurs de la catho ? Vous les connaissez peut-être. Quatre valeurs. Ces quatre valeurs ont été, je dirais, émises et proposées collégialement il y a 5 ou 6 ans à la faveur de notre nouvelle identité visuelle. Humanité, proximité, dialogue, liberté. Est-ce qu'afficher ces quatre valeurs, c'est du prosélytisme ? Non. Cela étant, ces quatre valeurs, l'université catholique va les proposer, dire voilà, comment ces valeurs s'enracinent aujourd'hui. Et elles s'enracinent dans un dialogue entre foi et raison. Et c'est rappeler simplement que l'université, la grande université, c'est une invention de qui, à votre avis ? C'est une invention de l'Église. Voilà, c'est l'histoire qui nous le dit, tout simplement. Et donc, très concrètement, c'est pas du prosélytisme, c'est-à-dire que on propose, à travers des activités d'aumônerie, voilà, ce dialogue entre ce qu'on appelle la foi chrétienne, et la raison. Mais, mais l'université catholique, elle va toujours affirmer quoi ? Le primat de la raison. voilà, du logos, de l'objectivation, de la, c'est ça vraiment l'essentiel.
Je posais la question puisqu'effectivement il dit pas plus de cette communauté que d'une autre. Sous-entendu, ouais. Il y a quand même un fond de prosélytisme.
Bah écoutez, je ne sais pas, peut-être que ce qu'il dit, c'est que peut-être qu'il y a que d'autres communautés catholiques chrétiennes qui sont présentes à la catho par tel ou tel membre, c'est certainement. Mais quand on regarde l'histoire longue de la catho de l'UCO, hein, c'est quoi ? Eh bien, il y avait au départ beaucoup d'enseignants, de professeurs qui étaient des prêtres, qui étaient issus de communautés religieuses, voilà, et qui ont contribué à fonder les instituts. L'Institut mathématique appliquée a été fondé par les frères de Montfortin, de même l'Institut de perfectionnement langue vivante. Donc toute une histoire. Il y a aussi un sillon dominicain, vous voyez ce que je veux dire ? Donc des dominicains, vous savez, là, le pôle scientifique, là, on est à 3 mètres, ou 10 mètres du pôle scientifique. Il y a encore 40 ans, c'était le couvent des dominicains. Oui, donc voilà, on a gardé la chapelle Saint-Thomas. Donc l'histoire de la catho aussi, ça montre qu'elle a été portée par effectivement, on va quand même pas demander d'être catholique. Enfin, je veux dire, oui, ce que je veux dire, c'est tout simplement c'est ça quoi, en fait. Voilà.
En tout cas, ce sont des valeurs que vous défendez et qui sont chères à l'établissement.
Oui, mais vous savez, voilà, on la défend, on les promeut,
bien sûr.
Mais on les promeut pas violemment, en les imposant pas. Vous savez, la vérité ne s'impose que d'elle-même, enfin, d'une certaine manière. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que l'université catholique, notamment, à cette mission, je dirais profondément, de défendre la raison, ce travail de la raison humaine. Ça, c'est absolument capital aujourd'hui.
Vous nous disiez en début d'interview que vous alliez rester professeur ici à l'Université catholique de l'Ouest. C'est important pour vous de garder cet ancrage au sein de cet établissement.
Alors oui, enfin, disons qu'en fait moi je reprends mon poste de professeur à l'agro puisque je viens de l'université publique. Hein, vous voyez ce que je veux dire, j'étais pendant toute ma carrière. Vous voyez, je suis entré un peu par effraction dans l'université catholique.
Ceci dit, vous êtes attaché aux valeurs et vous voulez plus les quitter maintenant.
Oui, bah, donc en fait, non, très concrètement, c'est-à-dire que voilà, je resterai basé à Angers et effectivement, à la demande d'ailleurs du nouveau recteur. Hein, c'est-à-dire que voilà, donc je continuerai éventuellement à m'occuper notamment d'une chaire qui s'appelle la chaire Vietnam en fait, voilà, très très ponctuellement, voilà, c'est ça.
Merci beaucoup Dominique Vermerge d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers.
Carried on his back Now the legend goes, kept on searching till the very night he died. Buried with his dream, his grave forever weeps on a hill of dark roses, glowing underneath the golden sky.
Il est exactement 18h24 sur Radio Campus Angers et vous venez d'écouter le morceau Dark Rosie sur le Centre FM avec nous dans les studios Chloé. Salut Chloé.
Salut Hugo.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de stéréotypes liés au genre et de ce que cela implique dans notre vie de tous les jours.
Effectivement Hugo, des stéréotypes liés au genre, on en connaît tous pas mal. Soit parce qu'on y a été confronté, soit parce qu'on en a entendu parler. On va essayer de voir ensemble ce que c'est et surtout pourquoi c'est important de déconstruire tout ça. Les stéréotypes de genre, on les connaît depuis l'enfance. Par exemple, on pense que les filles doivent aimer les princesses et s'amuser avec de la dinette, quand les garçons doivent faire du foot et aimer les voitures. C'est ici que prennent racine les stéréotypes que l'on va reproduire à l'âge adulte. Si dès tout petit, on te dit que, puisque tu es un garçon, tu dois faire telle ou telle chose, et surtout pas quelque chose d'autre, tu vas le reproduire une fois que tu seras adulte, parce que c'est quelque chose qu'on t'aura appris dès l'enfance. C'est pour ça que c'est parfois compliqué de lutter contre ces stéréotypes, parce qu'on est tellement habitué à ça que ça devient presque inconscient. Par exemple, on va voir une voiture rose passer dans la rue, et on va tout de suite penser que c'est une femme qui conduit, parce que le rose, c'est pas une couleur que les hommes aiment. Voilà un exemple parfait d'un stéréotype de genre qu'on a depuis l'enfance.
Sauf que, avec cet exemple, les stéréotypes de genre semblent complètement inoffensifs, à la rigueur peut-être un peu agaçants, mais c'est tout. En fait, le vrai problème, c'est que les stéréotypes, ils ont des conséquences qui peuvent être bien plus dérangeantes.
Oui, par exemple, ça peut aller jusqu'à la discrimination. Prenons l'exemple simple d'une jeune femme qui va avoir environ 30 ans. Elle postule pour un poste dans une entreprise. Son CV y correspond parfaitement aux attentes et elle a déjà effectué le type de mission qui lui seront attribuées dans une autre entreprise. En somme, elle a tout ce qu'il faut pour obtenir le poste. Sauf que, après l'entretien, le recruteur lui dit qu'il préfère prendre quelqu'un d'autre parce qu'il a peur qu'elle tombe enceinte et donc soit en congé maternité. C'est un exemple de discrimination qui prend racine directement dans le préjugé selon lequel les femmes, arrivées à un certain âge, vont forcément vouloir des enfants. C'est bien sûr, et je devrais même pas avoir à le préciser, complètement faux.
Mais en fait, ça doit être quand même super difficile à déconstruire les stéréotypes de genre. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner à nos auditrices, à nos auditeurs ?
Oui, alors, déjà on commence par se rendre compte qu'on a des stéréotypes en tête. C'est pas forcément facile, parce que ça remet beaucoup de choses en question, mais c'est déjà un bon début. Pour vous rassurer, des stéréotypes, on en a tous, même les personnes les plus déconstruites que je connaisse. En commençant à réfléchir à pourquoi on pense ça, et surtout sur quoi c'est fondé, on commence à avancer et à se déconstruire. Ça nous permet de détruire petit à petit les stéréotypes qu'on a, parce qu'on se rend compte que c'est fondé sur rien du tout. Non, il n'y a rien qui dispose les petites filles à aimer le rose et les poupées. C'est simplement qu'on éduque de façon genrée les enfants et qu'on leur transmet ces stéréotypes. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a des préjugés et qu'on commence à les déconstruire, on se rend vite compte qu'on a tous les jours des exemples qui mettent à mal ces stéréotypes. Et on peut continuer son travail de déconstruction. Pour finir, je vous dirais que là, j'ai uniquement parlé des stéréotypes et préjugés liés au genre, mais qu'il y en a plein d'autres sur énormément de sujets. C'est hyper important de se déconstruire, déjà parce que ça nous rend plus tolérants, et ça, c'est essentiel. Ensuite, on avance dans sa réflexion intellectuelle, et on en ressort plus riche. La déconstruction, c'est essentiel, et sur tous les sujets. Ça peut être difficile au début, mais ça vaut toujours le coup.
Et oui, chers auditeurs, déconstruisez-vous.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Basé à Château-Gontier en Mayenne, le Carré est nommé par le ministère de la Culture comme scène nationale et centre d'art contemporain d'intérêt national. Depuis 25 ans, la chapelle de Genteil accueille les expositions du Carré et en 2018, la structure propose des résidences aux artistes du territoire en consacrant des ateliers avec les lycées de Château-Gontier. Joël Flambard de l'Autre Radio a rencontré Antoine Avignon, chargé des publics et de l'action culturelle au Centre d'art contemporain. Un reportage évidemment pensé local en partenariat avec la Frappe.
Pensée locale, un enjeu de société. une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bonjour, Antoine Avignon, chargé des publics et de l'action culturelle au Carré, Centre d'art contemporain, scène nationale, à Château-Gontier. Ça fait près de 25 ans que la chapelle du Jeune Theil accueille les expositions du Carré, du Centre d'art. Ce que j'aime, c'est transmettre, faire le lien entre les œuvres, l'artiste et le public. Ça, c'est vraiment le rôle d'un médiateur, c'est vraiment de faire cette liaison-là. Et puis de continuer à décrypter les œuvres, à travailler le regard, apprendre à regarder, à prendre le temps de regarder. Ce qui nous permet, en regardant les œuvres d'art, de regarder aussi le monde qui nous entoure différemment. Ça, c'est quelque chose d'assez passionnant. Et puis, l'interaction qu'il peut y avoir entre nous et le public quand on parle d'art, c'est vraiment très, très enrichissant. Et puis, il y a aussi toute cette partie action culturelle avec les artistes qu'on accueille au début des projets, pendant le montage, pendant la vie de l'exposition. Donc ça, c'est le lien avec les artistes, c'est quelque chose d'ultra important. Quand on entre dans la chapelle, je pense que vous avez pensé à la peinture en premier, parce qu'il utilise les codes de la peinture, évidemment, le chevalet, la nature morte, enfin le chiffon du peintre. Et en fait, il s'avère que le seul geste de peinture qu'il a fait dans l'exposition, ce sont les chiffons. Depuis 4 ans maintenant, on fait ce qu'on appelle des résidences de territoire. Chaque année, on accueille pour des durées variées sur une année un artiste ou une artiste. Chaque résidence de territoire est différente en fonction de la personnalité de l'artiste. Mais l'idée, c'est vraiment qu'un artiste qui vient d'un autre territoire se nourrisse et infuse un petit peu son travail avec les habitants. Et cette année, donc, c'est Maxime Lamarche qu'on a invité. Et Maxime, c'est un sculpteur qui sculpte le métal notamment. Et là, il y a un travail qui est fait auprès d'entreprises qui travaillent le métal. Et puis, avec le lycée professionnel, il va customiser une de ses sculptures avec des élèves en formation professionnelle. Donc, il y a un atelier qui est permanent pour Maxime Lamarche au sein du lycée. Et ça, c'est vraiment super. C'est le lycée Pierre et Marie Curie. Et là, il est là en ce moment, là, il travaille. Et donc les élèves, dans le cadre de leur apprentissage, peuvent apprendre des techniques, se poser des questions sur les objets qu'ils produisent et participer à la réalisation de cette sculpture qui sera présentée dans le cadre de Gontierama 2022 à partir de fin mai. Gontierama, qui est un parcours d'œuvres d'art contemporain à Château-Gontier, qui investit différents lieux comme la médiathèque, le musée, la salle gothique au pôle culturel des Ursulines, les bords de la Mayenne, la chapelle du Jeune Theil également. Faut pas que j'en oublie. ça va faire un beau parcours dans la ville. Toutes les expos sont entrées libres. C'est vrai dans beaucoup de centres d'art en France. La gratuité faisant partie d'une politique publique d'accès à la culture au plus grand nombre, tout simplement. Tiens, voilà de l'artiste. Salut Maxime.
Tu vas bien?
Bah oui, et toi?
Ouais,
bonjour. Donc je viens de parler de toi, c'est Joël qui est à l'autre radio.
Ah ok.
Et du coup, on parlait des résidences de territoire et...
Ouais. Bah, très bien, bah ouais, on est en plein dedans.
Tout est art et l'art sera partout cet été. En tout cas.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Joël Flandard pour l'autre radio.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Tout de suite, on écoute une lecture d'un poème ukrainien lu par des membres de l'association Éclat, suivi d'un texte surréaliste. On continue avec les textes surréalistes cette semaine, écrits et lus par Caroline Brémo dans le cadre de son cursus en art plastique à l'Université catholique de l'Ouest.
Bras, poils de jambes, yeux, nez, calvitie, poils d'aisselle, cuisses, cheveux, double menton. Ventre, 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 oreille, bourrelet d'aisselle, oreille, nez, poitrine, nez, poitrine. Poignée d'amour, pied, poignée d'amour, poignée d'amour. Cuisse, main, clavicule, jambe, dos, sourire, 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 sourire.
Надія, ні долі, ні волі у мене нема. Засталася тільки одія, надія одна. Надія повернутися ще раз на вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ, на могилки, востаннє згадати галки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, залишилась тільки надія одна.
Le poème s'appelle L'Espérance. Je n'ai plus ni bonheur ni liberté, une seule espérance m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine, contempler encore le Dniepr si bleu, y vivre ou mourir importe bien peu. Revoir une fois les tertres, les plaines, et brûler au feu les pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur ni liberté, une seule espérance m'est restée.
C'est la fin de ce pédalo. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Par ailleurs, ce soir, c'est l'Assemblée Générale de Radio Campus Angers. Nous invitons tous les bénévoles à venir nombreuses et nombreux. Les bénévoles, ceux qui viennent maintenant, mais aussi ceux à venir, hein, évidemment, à se rendre dans les locaux de Radio Campus Angers pour participer avec nous à cette joyeuse soirée. Salut!
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.